Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Fun for you. Je m'appelle Simon et comme chaque semaine, on est parti pour un nouvel épisode du podcast Fun for you, votre podcast dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime. Et mon invité du jour s'appelle Sixtine Dano. Salut Sixtine.
Salut.
Alors j'ai l'habitude de commencer mes interviews par une présentation de l'invité. J'ai voulu le faire pour toi, mais c'est assez compliqué. J'ai l'impression que t'es un peu touche-à-tout. Master en cinéma d'animation, animatrice 2D, illustratrice, professeure d'animation, engagée aussi dans des associations. Comment on pourrait te décrire finalement ?
Je pense qu'on peut dire dessinatrice, autrice et activiste.
Alors tu es ici pour venir nous parler de ton premier roman graphique, ta première BD. Elle s'appelle Sibylline, elle est sortie aux éditions Glénat. Elle raconte quoi cette BD ?
Alors Sibylline, c'est l'histoire de Raphaël, qui est une étudiante qui arrive à Paris pour ses études. Et on va suivre un peu sa première année scolaire et donc ses histoires d'amitié, d'amour. Et on va la suivre expérimenter l'escort girl.
Alors c'est un premier livre, c'est un thème assez fort, intime et sensible. Pourquoi tu as décidé de traiter de cette thématique ?
C'est un sujet sur lequel je suis arrivée un peu par hasard pendant mes études, du coup, début de mes études, en rencontrant des gens qui étaient concernés. Donc je me suis rendu compte que des amis pratiquaient le sexe tarifé. Après, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai aussi rencontré des travailleuses du sexe qui vraiment le vivaient en autodétermination et qui le revendiquaient. Ça, c'était plus dans les milieux activistes féministes. Et je me suis rendu compte que ce sujet, il était hyper intéressant parce qu'il cristallise beaucoup de choses de la société sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports de classe sociale aussi, beaucoup, le capitalisme, les violences sexistes et sexuelles. Et qu'il était assez maltraité dans les médias et dans le milieu culturel, dans le cinéma, la littérature, souvent spectaculaire, souvent sensationnaliste, ou alors très misérabiliste, ou alors très sensuel, très érotique. Et j'ai voulu apporter un peu un côté plus proche du réel, plus sensible, et du coup, en fait, faire un portrait un peu intime, mais qui raconte le politique.
Parce que c'est un sujet qui est quand même assez tabou, on le sait. Il y a de nombreux étudiants, malheureusement, qui n'ont pas le choix d'avoir recours à ce genre de truc. On a des chiffres par rapport à ça ?
Ouais, il y en a, ils font assez froid dans le dos. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais on peut voir déjà entre celles de 2014 et celles de 2019 qui ont été faites dans des universités à Montpellier et à Grenoble. On peut voir que les chiffres augmentent et alors on passe de 6 à 8% des étudiants qui l'ont déjà fait, qui disent le faire. Je crois qu'on est à 28% des étudiants qui disent connaître quelqu'un qui l'a déjà fait et 18% qui disent pouvoir l'envisager. Donc en gros, sur un amphithéâtre d'université de 100 étudiants, il y en a possiblement presque 10 qui l'ont déjà fait, c'est énorme.
Comment on tombe là-dedans finalement ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés financières quand on est étudiant ? Est-ce que c'est parce que c'est de l'argent rapide ?
Alors c'est un mélange de beaucoup de choses et c'est aussi un peu ce que j'essaie de raconter à travers cette BD. C'est toute une suite de décisions ou de non-décisions, on va dire, plutôt qui vont amener vers ça. Et donc ça peut être une suite de vulnérabilité. Donc par exemple, une entrée dans la sexualité qui peut être violente, problématique, toxique, assez jeune souvent. La moitié des mineurs prostitués aujourd'hui ont vécu des violences sexistes, surtout sexuelles, non condamnées par la justice. C'est souvent ça peut commencer par là, une vision de la sexualité déformée, une déconnexion avec son corps qui en fait permet de pouvoir vivre ça sans en vivre les traumas directement. Bien sûr, ça arrive souvent plus tard. Et au-delà de ça, il y a aussi évidemment la précarité étudiante. Faut savoir que c'est des choix politiques qui pourraient être évités. On pourrait favoriser plus les étudiants. Actuellement, ça va plutôt dans l'autre sens. Les APL, les aides sociales, elles se durcissent, enfin l'accès à ces aides. Et puis après, en fait, si on prend un peu de recul et qu'on regarde la société dans son ensemble, on voit aussi que les injonctions à la féminité, on les a dès toutes petites. Et quand on a l'impression qu'on ne vit qu'à travers le regard sexualisant d'homme, que la seule valorisation qu'on a, c'est le regard de l'homme, se faire payer pour passer du temps avec eux, ça a l'air d'être une victoire quasiment.
Alors la BD, elle s'appelle Sibylline, c'est le pseudo que choisit Raphaël donc pour s'inscrire sur ses sites. Un personnage fictif, mais qui est inspiré de témoignages réels. Est-ce qu'ils sont nombreux, les étudiants, dans cette situation ? On en parlait un petit peu, mais comment est-ce que tu as écrit, inventé ce personnage finalement, en te basant basant sur des témoignages, tu as trouvé facilement des gens pour témoigner ?
Oui, bah alors comme je t'ai dit, au début, c'était des amis plutôt, un peu ouais. par hasard. Après, j'en ai parlé autour de moi parce que j'avais ce projet qui commençait à germer. Et en fait, c'est un peu flippant parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que j'en parlais, on me disait « Ah, mais je crois que dans ma promo, il y avait quelqu'un qui le faisait, peut-être je peux te mettre en contact. Ah, mais je connais quelqu'un. » Et en fait, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Même par exemple, tu vois, j'ai fait une story un moment sur Instagram pour juste faire un appel à témoignages sur le milieu de l'architecture parce que c'est des études que j'ai pas faites moi et donc je voulais me renseigner un peu. Et donc, j'ai pu prendre un verre avec plusieurs étudiantes que j'ai rassemblées, les plusieurs réponses que j'ai eues. J'ai fait un verre avec tout le monde et j'ai raconté du coup l'histoire de la BD, j'ai parlé du sujet de l'escorte. Et en fait, après ce verre, il y a une des étudiantes qui est venue me voir et qui m'a dit « Bah écoute, si tu veux, on peut se revoir et moi, je peux te parler de l'autre sujet de ta BD. » Parce que en fait, depuis ses 15 ans, elle était escorte. Donc, en fait, par hasard, j'ai pu tomber sur des gens comme ça aussi.
Mais donc, elle était mineure. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, des mineurs s'inscrivent sur ce genre de site ? Que dit la réglementation par rapport à tout ça ?
Bah déjà les sites qui mettent en avant ce genre de choses de sugar dating, bah c'est déjà des sites qui frôlent avec la légalité hein, parce que ils se font de l'argent avec des pubs sur vraiment l'échange du sexe tarifé. Donc c'est censé être interdit en France. Moi je viens de la France donc je connais cette loi là, mais c'est censé être interdit le proxénétisme. Il me semble quand même qu'ici aussi ça l'est. Donc ils jouent vraiment avec ce truc là. Et donc sur la légalité de l'âge, je pense qu'ils vont pas trop vérifier. Hein. C'est comme les sites de rencontres, tu peux y aller des très jeunes dessus. Et en fait ce qui est flippant c'est que je l'ai montré dans la BD en fait. Il y a pas besoin d'être sur des sites spécialisés de sugar dating, d'escorte pour être accosté.
Oui, parce que le personnage de Raphaël, voilà. Ça commence sur des sites de rencontres, on va dire plutôt classiques, que ces demandes arrivent et on le voit de plus en plus, hein, même sur les réseaux sociaux. Il y a des fois, on reçoit des messages, on se retrouve dans des groupes sur Insta, etc. On ne sait pas trop ce qu'on y fait, mais finalement, c'est un peu ça que les gens cherchent derrière.
Mais oui, mais même sur Vinted, par exemple, il y a des jeunes filles qui vont vendre des vêtements, elles vont prendre des photos de leur corps, elles vont recevoir des propositions déplacées. Enfin, c'est hyper courant et je pense que quand on est une jeune fille, on banalise un peu le truc parce qu'on le vit au quotidien. Quoi.
Est-ce que parmi tous les témoignages que tu as récoltés, parce qu'on le disait, tu en as récolté quand même pas mal, il y en a un qui t'a plus particulièrement marqué, qui peut-être t'a plus inspiré pour l'écriture de la BD ?
Je pense que pour l'écriture, c'est vraiment un mélange de beaucoup de témoignages différents. J'ai un peu divisé ces différents témoignages en deux personnages. Donc il y a Raphaël, qui est le personnage principal, mais il y a Leïla aussi, qui est son amie, dont on va suivre aussi vite fait, enfin un peu de loin le parcours. Mais les deux visions des deux personnages vont un peu raconter deux choses différentes, et c'est ça qui est intéressant. Mais sur tous les témoignages que j'ai eu, je pense que celui qui m'a le plus bouleversé, c'est quand même celui de cette jeune fille qui a commencé à 15 ans, après la mort de son père. Donc on voit que ça cristallise beaucoup de choses sur le rapport aux hommes, sur la sexualité. Il y avait un truc d'impossibilité à dater les gens de son âge, d'impossibilité quasiment à coucher gratuitement en fait. Pour elle, c'était devenu bizarre. Donc c'est assez flippant, oui.
Et est-ce qu'il y a des scènes qu'on t'a racontées que t'as décidé de ne pas mettre dans la bande dessinée, peut-être de censurer pour ne pas choquer les gens ?
En fait, je voulais quand même de base éviter un récit misérabiliste. Ouais. Donc je voulais pas qu'on punisse le personnage parce qu'elle a osé utiliser sa sexualité pour accéder à du pouvoir économique ou du pouvoir sur les hommes. Je voulais pas ça. Je veux pas cette morale et on l'a déjà beaucoup trop eu. Enfin, en fait... tous les films de serial killer, à chaque fois, c'est les prostituées qui sont tuées en premier. Enfin, on a déjà ce poncif. Et donc, je voulais quand même un récit assez lumineux. Mais après, je me suis pas censurée. Mais par contre, j'ai essayé d'adopter vraiment un regard féministe sur la mise en scène. Vraiment un female gaze, qui par opposition au male gaze, qui est le regard masculin. C'est le regard qu'on a souvent au cinéma, parce que c'est souvent des hommes qui font le cinéma. Un peu moins aujourd'hui, ça commence à devenir un peu plus paritaire, mais le sujet de la prostitution, ça a souvent été traité par des hommes. On peut parler de Jeune et Jolie, par exemple, qui est ultra connu, de Ozon. Et pareil, c'est un traitement un peu esthétisant, un peu romantique, un peu bourgeois aussi. Moi, j'ai voulu faire au contraire prendre un parti pris de, par exemple, je montre mon personnage nu seulement quand c'est justifié et jamais dans le sexe tarifé. Donc, on voit des clients, mais elle, on la voit pas. Par contre, quand elle est en train de faire l'amour avec un garçon qui lui plaît, une relation saine et une relation qui va un peu l'aider à en sortir à la fin, désolé, je spoil un peu, mais là, par contre, je m'épanche un peu plus sur la sensualité et l'intimité. Mais sinon, le reste du temps, j'essaye d'utiliser d'autres astuces de mise en scène.
Et c'est quoi les retours que tu as depuis la sortie de la BD ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont venus te parler, qui sont venus te dire « moi, je me retrouve dans le personnage de Sibylline » et comment les gens réagissent finalement ?
Bah ouais, ça m'a vraiment touchée, c'est que j'ai eu pas mal de retours de personnes concernées qui se sont senties bien représentées. Et ça, c'était un enjeu vraiment important pour moi. J'avais des problèmes de légitimité un peu à aborder ce sujet aussi, sans me présenter comme faisant partie de ce secteur-là. Enfin, j'arrive comme ça, je suis juste autrice. Je parle d'un sujet qui peut être très clivant, très touchy. Et donc, j'avais besoin vraiment de me sentir légitime à en parler. Et le fait que des personnes concernées se retrouvent dans le récit, ça m'a beaucoup touchée. J'ai déjà des gens qui, en dédicace, sont venus me l'avouer à demi-mot. Parfois, les gens sont très, très émus, je peux le voir. Les jeunes filles dont j'ai reçu le témoignage aussi, certaines ont pu lire la BD. Et aussi,
elle se retrouve un petit peu dedans dans le personnage,
ouais,
du coup.
Oui, carrément. Notamment cette jeune fille, par exemple, qui avait commencé à 15 ans. J'ai pu la revoir, du coup, des années après, récemment, du coup. Et c'est vraiment chouette parce qu'elle, elle a réussi à arrêter. Et par contre, elle a une amie à elle qui continue toujours. Et du coup, maintenant, elle se retrouve même un peu dans la relation entre les deux personnages qui est aussi développée dans la BD.
Est-ce qu'il y a une difficulté à s'arrêter une fois qu'on est rentré dans cet engrenage ?
Bah évidemment, ouais. C'est vraiment, ça peut être une addiction, et surtout chez les personnes qui cumulent plusieurs vulnérabilités, donc la précarité, l'absence de repères familiaux qui peuvent aider, des violences sexistes sexuelles. Enfin, après, la plupart du temps, quand c'est des étudiants étudiantes qui sont plutôt bien insérés, qui sont plutôt d'un milieu stable quand même, bah la possibilité d'avoir un salaire et un revenu à la sortie de l'école va quand même aider à s'en sortir.
Elle est destinée à qui, cette bande dessinée ? On a parlé des jeunes tout à l'heure, on a parlé des différentes personnes qui ont témoigné, qui ont lu et qui se sont retrouvées dedans. Elle est peut-être aussi destinée à des parents, peut-être pour mettre en avant ce sujet qui est quand même très tabou dans la société, on en parle très peu. C'est qui le public cible, s'il y en a un, ou alors c'est vraiment destiné à tout le monde ?
À la toute base, je pense que j'ai fait cette BD aussi pour moi, parce que y a beaucoup de choses dedans Je fais un peu la part des choses avec ce que j'ai pu vivre aussi en tant qu'étudiante et en tant que jeune fille qui vit dans le monde tel qu'il est, dans le dating game, aussi le rapport à son corps. Il y a plein de thématiques en fait qui sont universelles. Il n'y a pas besoin de s'être d'avoir déjà fait du sexe tarifé pour se reconnaître dans les personnages. Évidemment, il y a les parents, mais en fait ça c'est marrant parce que je m'attendais pas trop. En fait, je les avais pas
pris en compte.
Non, en fait, j'avais vraiment écrit la BD pour les étudiantes. C'était vraiment mon public cible au début. Pour moi aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que les parents s'identifiaient aussi aux parents dans la BD. Et vraiment, ça pouvait débloquer des discussions aussi entre parents et enfants. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis aussi, je pense que ça peut toucher les gens qui pourraient envisager de payer pour du sexe. Et donc, de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de la chose.
Parlons un peu du style de cette bande dessinée. Elle est très sombre, tout est en noir et blanc. Pourquoi avoir choisi cette direction artistique ?
Alors, c'est vrai qu'elle est en noir et blanc. C'est de l'encre de chine et du fusain. J'ai tout fait à la main. J'ai été inspirée par une BD que j'ai trouvée magnifique de Manuel Fior qui s'appelle L'Entrevue. Et c'était des outils que je maîtrisais bien. Et c'est assez simple aussi de faire du noir et blanc pour une première BD. Enfin, c'est plus simple. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est sombre parce que justement, c'était vraiment un gros travail d'essayer de rendre aussi un peu lumineux cette histoire. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que l'encre plus le fusain ensemble, ou parfois juste l'encre toute seule, ou parfois juste le fusain tout seul, en fait, permet d'avoir une palette de rendu qui est très large. Donc j'ai des scènes parfois qui sont très sombres, très contrastées, et parfois d'autres moments où ça va être vraiment dans presque duveteux, presque vaporeux avec cette poussière de fusain du coup, et qui donne un côté très très lumineux pour des scènes un peu nostalgiques, un peu sensuelles. Et donc ouais, je trouve que c'est des super outils et en fait j'ai traité le noir et blanc comme de la couleur quasiment. C'est vraiment tout en nuances, c'est pas juste des contours où on aurait oublié de mettre la couleur dedans.
Ça prend combien de temps de créer une telle bande dessinée ? Parce qu'il y a un travail de dingue, il y a énormément de planches dans cette BD. Ça t'a pris combien de temps pour faire tous les dessins par exemple ?
Ouais, c'est 260 pages à peu près. Donc j'ai mis un an et demi, deux ans à la dessiner. J'ai fait tout le storyboard, donc la mise en page brouillon avec des bonhommes patates sur iPad, sur une appli qui s'appelle Procreate, qui est super pratique parce que du coup je peux bosser de n'importe où. Je peux aller dans des cafés, je peux bosser chez des gens. gens, parce que c'est très solitaire comme taf auteur de BD. Du coup, j'ai pu bouger un peu et travailler à côté d'autres personnes. Et après, j'ai imprimé tout ça sur des grandes feuilles où j'ai pu décalquer par-dessus à l'encre de Chine. Et après, dernière passe, le fusain, où là, j'apporte vraiment toutes ces nuances de lumière et d'ombre.
Alors, la BD, c'est pas ton domaine de base. On en parlait tout à l'heure. Toi, tu viens plutôt du cinéma. Pourquoi avoir décidé de te tourner vers la BD, finalement?
C'est marrant parce que tout le monde me pose cette question. Mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point faire une BD et faire un film, c'est radicalement différent.
Ah ouais?
Une bande dessinée, il y a juste une maison d'édition à convaincre. Et après, c'est bon, on peut la faire. Tu prends 2 ans devant toi et t'es juste toute seule chez toi à dessiner. Un film, c'est des millions d'euros de budget. Il faut convaincre plein de personnes pour avoir des subventions, pour avoir tout le budget, quoi. Après, c'est une centaine de personnes pour faire soit un tournage, soit la production si on fait du cinéma d'animation. Et après, il faut distribuer. Enfin, en fait, c'est deux échelles vraiment différente de fou, quoi. Moi, je savais que j'avais envie de raconter cette histoire, de prendre le temps, de vraiment aller en profondeur, en subtilité, parce que c'est un sujet qui est tellement complexe, tellement touchy, que fallait le traiter vraiment dans son entièreté. Et je pouvais pas faire ça sur un petit court-métrage, une petite animation, un petit film. Donc la BD... ça a vraiment été le médium parfait, quoi.
Avant de se quitter, Sixtine, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ton travail?
Alors oui, sur Instagram, donc c'est @sixtine.dano. Sixtine, S-I-X-T-I-N-E.
Si vous voulez voir un peu comment est construite la BD, par exemple, et tous tes autres projets, parce qu'il y a d'autres projets d'ailleurs. Il y a des projets pour les prochains mois, par exemple?
Là, on est en train de travailler sur une éventuelle adaptation en film de la BD. Donc
ah ouais.
Tu vois, finalement, on y arrive au film.
Le lien entre le cinéma et la BD est quand même existant un petit peu.
Voilà, voilà. Et après, bon, j'écris d'autres choses, mais il n'y a rien d'officiel encore pour la suite.
Et bien, si un jour la BD sort en film, tu seras la bienvenue ici sur Fun Radio pour
avec
venir
plaisir.
Nous présenter ce super projet. Merci Sixtine, en tout cas.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.